Frères et sœurs, c'est dans le livre des Actes des Apôtres que nous allons lire un passage que l'on trouve au chapitre 12. Ce sont les 17 premiers versets du chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et les faire mourir par l'épée. Ce fut le cas de Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains, sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, sans relâche, la prière montée de l'Église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre était lié de 2 chaînes, il dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint, et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il lui dit « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante, du nom de Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, devant l'entrée. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. De la main, il leur dit signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison et dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Frères et sœurs, avant de nous plonger dans ce texte, je vous propose de prendre votre recueil de chants, louanges et prières au cantique 232. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Levons-nous pour chanter l'Éternel. Puissions-nous maintenant faire silence en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre. Puissions-nous maintenant nous mettre à l'écoute des bruissements de la vie portés à sa plénitude. Chers frères et sœurs, Pierre a donc été mis au cachot. Pierre, c'est celui à qui a été confié les disciples par Jésus lui-même. Pierre est celui qui a reçu la responsabilité de faire paître le troupeau. Pierre, c'est le responsable, c'est l'autorité sommitale de la communauté chrétienne, c'est le président du conseil presbytéral, qui, quelque temps après son élection, se retrouve pieds et mains liés sur la surveillance rapprochée de 16 soldats. Le compte est bon. Évidemment, toute ressemblance avec notre vie locale serait purement fortuite. Le rédacteur de l'évangile de Luc et des Actes des Apôtres n'avait pas en tête ce qui nous arriverait ce matin. En revanche, si nous ne faisons pas une lecture allégorique qui cherche à tout prix à repérer une personne ou une chose derrière tel personnage de cette histoire. Ce passage du livre des Actes des Apôtres a des choses à nous dire sur la condition du conseil presbytéral, qui assume collégialement, Bertrand de Cazeneuve l'a rappelé, la figure de Pierre, non seulement selon le principe du sacerdoce universel, mais selon la constitution de notre Église, le texte cadre de l'Église protestante unie de France et selon les statuts de notre association cultuelle qui confie au conseil presbytéral la responsabilité de l'Église entre deux assemblées générales. Et j'aimerais ce matin, alors que vous venez d'être reconnu liturgiquement dans votre ministère, reprendre cette histoire biblique pour vous faire entendre autre chose que ce que les textes administratifs vous enseignent de ce ministère. Cet enseignement tient en un seul mot, le plus beau peut-être après celui de grâce, liberté. Le mot le plus précieux, peut-être aussi le plus fragile. Oui, frères et sœurs, au moment où vous ressentez probablement votre responsabilité comme une charge portée à plusieurs, mais une charge tout de même, et je pense tout particulièrement à celui qui a accepté la fonction de président, je veux vous faire entendre que votre ministère est celui de la liberté, que les 4 années qui s'ouvrent devant vous peuvent être marquées de ce sceau magnifique de la liberté. Alors que vous voilà coincé dans la geôle des conseillers presbytéraux, le bien mal nommé parc à huîtres, prenez acte 12 comme un viatique. Lorsque vous vous sentirez acculé à une posture. La première des libertés est relative à la question de la posture. Le récit de la libération de Pierre indique que ses chaînes, en vérité, ne le retenaient pas, que la porte n'était pas suffisamment verrouillée pour l'empêcher de passer, que les escouades n'étaient pas un obstacle à sa sortie. Et pourtant, Pierre était prostré dans sa cellule comme un bon prisonnier. Et bien voilà qui nous dit ce que peut être un bon conseiller, quelqu'un qui justement n'est pas prostré dans sa fonction, celui qui n'est pas confiné à une posture. Je veux dire par là que le véritable danger pour un conseil presbytéral, c'est de se contenter de faire ce qu'il pense que les paroissiens attendent qu'il fasse. Et ça, c'est perverse. La question n'est pas de savoir ce que doit faire le conseil presbytéral de l'oratoire. La question est de savoir ce que vous avez à faire pour cette communauté. Je veux dire par là qu'il ne s'agit pas de se conformer à l'idée qu'on se fait d'un conseil presbytéral et plus précisément d'un conseil presbytéral à l'oratoire du Louvre, mais de se libérer des stéréotypes, des images d'Épinal, souvent des fantasmes. Individuellement, par exemple, il ne s'agit pas de se demander quel doit être le choix, la décision d'un conseil presbytéral de l'oratoire du Louvre. Il s'agit de se demander ce qui est bien, là et maintenant. Parce que vouloir se conformer à une sorte de modèle reviendrait à conditionner vos décisions alors que la conduite de l'Église de Jésus-Christ implique un caractère inconditionnel. Et c'est cela la qualité de la grâce. La grâce est sans condition. Agir en fonction d'autres impératifs que le bien absolu, le bien inconditionnel, des personnes qui vous sont confiées, ce serait dans une certaine mesure faire valoir d'autres motifs que ceux qui animent les disciples de Jésus-Christ. Se libérer des postures, c'est se rendre disponible aux défis qui se présentent aujourd'hui et apporter une réponse personnelle, la seule qui vaille. C'est vous, individuellement, qui avez été élu. C'est à vous, individuellement, que l'on a confié ce ministère collégial. Ce n'est pas à d'autres. C'est vous qui avez ce charisme particulier. Et c'est parce que nous comptons sur vos talents propres que nous avons fait appel à vous. Alors vous n'avez pas à vous demander ce qu'il faut dire ou ce qu'il faut penser en tant que conseiller presbytéral de l'oratoire du Louvre. Vous n'avez même pas à vous demander ce qu'il faut faire ou penser en tant que protestant libéral, ce qui serait une autre posture tout aussi contestable, une sorte de nouvelle orthodoxie. C'est justement parce que vous pouvez ne pas être enfermé dans une posture, c'est justement parce que vous ne serez pas prévisible et donc que vous ne serez pas déterminé à l'avance par quelque idéologie ou quelque système de fidélité que vous ferez de ce lieu un lieu où la liberté est une réalité et non uniquement un créneau à occuper, une posture disponible. La seule manière de pouvoir promouvoir la liberté, c'est d'être libre. Libre à l'égard des postures. Libre d'agir par grâce seul. Il y a certainement un poids encore plus lourd que la posture. Un poids qui peut entraver votre ministère, c'est l'histoire de l'oratoire du Louvre. Pourtant, l'histoire de l'oratoire du Louvre ne devrait pas être un poids sur vos épaules. De fait, il s'est fait de grandes choses par le passé, des choses parfois extraordinaires, qui provoquent l'admiration. Mais ce qui a été fait et bien fait n'a pas à être répété, encore moins reproduit. Ceux qui vous ont précédé ont répondu librement au défi de leur présent, sans plus. Ils n'ont pas cherché à faire histoire. Ils n'ont pas cherché à faire inscrire leur nom dans les pierres de cet édifice. Ils n'ont pas cherché d'autre gloire que celle de l'Éternel. Et c'est par cet esprit libre, cet esprit de libre service, qu'ils ont accompli ces grandes et belles choses que vous recevez comme héritage, à commencer par l'édification de cette communauté vivante qui est là, aujourd'hui. Ceux qui nous ont précédés n'ont pas fait autre chose que Pierre, interprétant les signes des temps, ce qui pourrait être la métaphore de l'ange, interprétant ces signes, voyant les enjeux qui se présentaient à eux, ils se sont levés promptement, ils se sont chaussés, ils ont mis leur ceinture et sont allés au-devant de leurs responsabilités, comme l'avaient fait avant Pierre les Hébreux eux-mêmes. Le récit de l'Exode au chapitre 12 ne dit pas autre chose. Promptement, ils mettent leur ceinture, ils chaussent leurs sandales et ils y vont. C'est Pâques. L'histoire de l'oratoire du Louvre ne devrait pas être un poids, mais un capital. Un capital dans lequel il est possible de puiser, notamment lorsque la mission devient difficile et que nous avons besoin de retrouver plus encore de l'espérance. Cette histoire ne vous surplombe pas de manière menaçante, voyez-vous. Elle est votre bien propre. Elle est une sorte d'évangile qui vous affirme que vous pouvez soulever des montagnes. De plus, avec un regard assez objectif, à vrai dire, l'histoire de l'oratoire ne devrait pas être un poids dans la mesure où la santé de cette Église, aujourd'hui, aurait de quoi rendre admiratifs celles et ceux qui vous ont précédés. Pourquoi ne pas dire, parce que c'est objectif, que la santé financière de l'oratoire a rarement été aussi bonne, ce qui n'est qu'une traduction de la véritable vitalité de cette Église, ses membres. Être libre à l'égard de l'histoire est la condition essentielle pour ne pas se condamner à reproduire ce qui a été accompli autrefois, alors que cela n'a peut-être plus aucun intérêt aujourd'hui. Le principe même de la réforme, un processus jamais achevé, est ce qui nous prémunit des répétitions inutiles et ce qui nous garde vigilants à l'égard du présent, la seule chose qui vaille vraiment. Je parlais de la vitalité des membres. Je parlais de la véritable vitalité de l'Église faite de ses pierres vivantes. Eh bien, cela implique une autre libération, peut-être la plus décisive et la plus importante. La libération du cléricalisme. Ce cléricalisme qui pourrait renvoyer les hommes et les femmes libres à d'autres geôles, à l'état d'être soumis. Lorsque la liberté a été pensée et transcrite dans des modes de fonctionnement, ce qui a pris le nom de libéralisme, le fondement en était la reconnaissance de la valeur des individus, qui ne devrait jamais être masquée par la valeur de quelques-uns. Dans la situation de Pierre, nous voyons que la communauté est agissante dès son arrestation. Sans relâche, la prière montée vers Dieu pour Pierre. Et ces prières n'étaient certainement pas des jérémiades, ni ces prières que les catéchumènes eux-mêmes ne feraient pas, ces prières qui ordonnent à Dieu de faire ce qu'il ignorerait ou qu'il n'accepterait de faire qu'à la condition qu'on l'implore. La prière de la communauté, c'est cet ardent désir de vie qui s'exprime peu à peu dans des phrases, dans des projets, dans des actions, qui nous mettent en route vers la destination voulue. La communauté est une communauté libérée de la mainmise des clercs. Ce n'est pas les pasteurs qui prient à la place de la communauté, c'est la communauté qui prend son destin en main et qui y va. C'est une communauté dont la parole est libérée et qui est donc en mesure de prendre ses responsabilités. Elle n'attend pas de savoir ce que le prédicateur pense de tel ou tel sujet pour savoir ce qu'elle-même doit en penser. Ce n'est pas une communauté docile qui n'aurait pas d'autre degré de liberté que d'obéir à ce qui lui est prescrit. Le protestantisme peut se targuer d'avoir mis en marche des générations d'individus qui ne se laissaient pas impressionner par le star system, par ses prédicateurs enthousiasmants, par ses prédicateurs tellement exceptionnels, ouvrez bien vos oreilles, mesdames, que pendant l'offrande, ici même, à l'oratoire, les paroissiennes détachaient leurs colliers de perles et les mettaient dans les aumônières. Après quoi les maris venaient les racheter dans la sacristie. Notre protestantisme n'a jamais misé sur quelques-uns, mais a toujours fait en sorte que se lève une nuée de témoins. Le protestantisme s'est toujours efforcé de donner la parole à chacun, pour que l'Église ne soit pas seulement autour de la chaire du pasteur, ce qui serait bien modeste. Nous devons avoir une ambition plus large. Se libérer du cléricalisme, c'est permettre à l'Évangile de pouvoir irriguer l'ensemble de la société, qui est une nécessité absolue de nos jours. Cela l'était auparavant, cela l'est absolument aujourd'hui. Il ne s'agit pas de christianiser la société française, il s'agit de l'évangéliser. Il ne s'agit pas de faire en sorte que tous les Français adhèrent à une église, de préférence la nôtre, mais que tous les Français puissent vivre effectivement selon la qualité de vie promue par l'Évangile. Et c'est en étant porteurs de l'Évangile là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous nous divertissons, là où nous étudions, que nous pouvons faire obstacle à tout ce qui ronge notre société. L'Évangile, c'est ce qui nous donne le courage d'être soi, en contexte de corruption, en contexte de violence, en contexte d'abus de biens sociaux, en contexte de négligence, en contexte de refus de l'autre, en contexte de fascisme, et de ne pas céder à ses périls, voire d'y opposer des paroles et des attitudes qui le neutraliseront. D'un point de vue tout simplement pragmatique, les pasteurs ne peuvent pas être partout. Alors considérez qu'ils ne sont nulle part. Considérez que ce sont des serviteurs inutiles. Considérez qu'ils font comme l'ange qui sort Pierre de sa torpeur et qui ensuite s'en va dans un autre lieu. Et pour finir, je vous le rappelle, tout cela tient en un mot, liberté. Si vous voulez accomplir votre ministère, c'est-à-dire être véritablement au service de l'Église, de l'Évangile, alors soyez serviteur de la liberté, et donc soyez vous-même libre. Amen.